Or, agir en vue d'une fin semble appartenir à celui qui a besoin de cette fin. Dieu n'a besoin de rien. Au fond, c'est un peu la même chose quand on cherche la cause finale de l'être. C'est un peu la même objection. L'être n'a besoin de rien. Rien n'est en dehors. Cette objection est très intéressante, parce que je peux la transposer au point de vue métaphysique. Alors, réponse de saint Thomas. Il est dit au livre des Proverbes, Jéhovah a tout fait pour lui-même. Importante de l'écriture. Alors, voici un raisonnement théologique. Tout agent agit en vue d'une fin, sans quoi il ne résulterait de son action pas plus une chose qu'une autre, si ce n'est par hasard. Et quand vous n'agissez pas finalisé, vous agissez. Pourquoi ? On fait un cours. Ah, tiens, très bien. Et vous y restez assis parce qu'on fait un cours. Vous n'avez pas à être la finalité de venir assister à un cours. Ça peut arriver, ça peut arriver. C'est pourquoi il est là. Le hasard. Je tombais juste nez à nez avec quelqu'un. Ah, il faisait un cours, j'assistais à son cours. C'est très bien. Non, la finalité, c'est... Ça touche l'agent et ça ordonne l'action de l'agent. Tandis que quand il n'y a pas de finalité, alors vous êtes uniquement en face d'un agent qui agit. De l'agent et du patient, pris comme tel, la fin est la même. Ça, c'est très important. De l'agent et du patient, pris comme tel, la fin est la même, bien que ce soit à divers titres, donc de diverses manières. Car c'est une seule et même chose que l'agent entend communiquer et que le patient entend recevoir. Ils sont unis dans cette communication que l'agent veut faire et que le patient reçoit. Ils sont unis dans la même forme, autrement dit. Est idem finis agentis et patientis in quantum uius modi. C'est d'alitère et d'alitère. Unum enim est idem, est quod agens intendit in primere. Donc, unum et idem, et quod patiens intendit recipere. Ben, c'est juste l'inverse de la dialectique du maître et de l'esclave. C'est l'antithèse, ou plus exactement, la dialectique du très important de mettre ça en parallèle, parce que c'est tout à fait le parallèle entre les deux. Et cette affirmation, c'est la même chose que l'agent entend communiquer et que le patient en tire recevoir. Unum est idem, est quod agens intendit primere, et quod patient intendit respiture. C'est la même chose. Unum est idem. Alors, il faut le comprendre. Une fois qu'on l'a compris, on ne peut plus être hegelien. Impossibilité. Une fois que vous avez compris ça, vous avez reçu le vaccin anti-Hegel. Ça coûte pas cher, mais ça demande un effort de l'intelligence. Une fois que vous avez su ça, vous pouvez plus. Impossible. Parce que vous voyez l'énormité de Hegel. Alors c'est pour ça que ça, il faut y réfléchir, il faut le comprendre. C'est beau de voir que saint Thomas dit « unum et idem ». Quelle différence y a-t-il entre « unum et idem » ? C'est répété les deux. « Unum », c'est un, « et idem », le même. Et en français, quelle est la différence y a-t-il entre le même et un ? Vous êtes le même avec vous-même et vous êtes un. Il y a une petite nuance. L'identité, du reste, l'identité, ça vient de l'idée. Hein. L'identité et être un. Un, c'est opposé au multiple. Idem, c'est l'identité. C'est opposé à le fait de diviser aussi. Donc, idem est quelque chose de plus radical, l'identité avec soi-même. C'est plus existentiel, comme on dit aujourd'hui. C'est l'exister. Tandis qu'unum, c'est des notions tout à fait premières. C'est plus notionnel, unum. Et idem, c'est plus existentiel. Il y a cette modalité particulière. C'est une manière d'exister, être soi-même, avec soi-même. C'est une manière d'exister. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus un aspect dans l'ordre de l'être. C'est lié à la propriété de l'être. Non. Là est propriété de l'être. Vous ne dites pas que le même est propriété de l'être. Mais vous dites que l'un est propriété de l'être. Donc il faut bien saisir la différence entre unum et idem. Saisissez ça bien. Alors, unum et idem. Ce que l'un intendit primere. L'agent comme tel, il tend d'imprimer. Imprimerait pas l'imprimatur, hein, ou l'imprimerie, c'est pas tout à fait la même chose. Intendit imprimerait, ce qu'il tend à communiquer. C'est de l'ordre de la communication, imprimerait. Et quoi, pas de science. Code patient intendit. Donc tout est dans le intendit. Intendit récupéré. Donc là, actif. L'autre passif. On reçoit. C'est la passivité. Et imprimeré, c'est agir. Et intendit, c'est le même. L'unité est du côté de intendit, et la diversité est du côté de imprimere, récupérer. Hein? Vous voyez bien ça. C'est l'intendit qui fait le même. Or, intendit présuppose la fin. C'est donc dans leur finalité qu'ils sont un, et non pas du tout dans leur manière d'être. Alors, si vous supprimez la finalité, vous n'avez plus que leur manière d'être, et vous voyez l'opposition. L'opposition entre l'agence et le patience, entre le récupéré et l'imprimeré, est dépassée par l'inandit, donc par la finalité. Et donc, idem et unum, c'est du côté de la finalité. Ce n'est pas du côté d'imprimeré, récupéré. Il faut bien le saisir, c'est très très important de bien saisir ça. L'agent et le patient sont un dans leur intention profonde, c'est-à-dire dans leur finalité, dans la finalité de leur action. Bien que dans leur manière d'exister, ils possèdent la même forme de deux manières tout à fait différentes, puisque l'un imprimerait, l'autre récupérerait. Si vous supprimez la finalité, vous ne voyez plus que l'opposition. Mais au premier agent, donc une fois qu'on a donné le principe général de ça, mais au premier agent qui est agent seulement, le premier agent c'est Dieu, il n'appartient pas d'agir pour l'acquisition de quelque fin. Il ne se propose, lui, que de communiquer sa perfection, autrement dit sa bonté. L'agent premier n'a pas une finalité extrinsèque à lui qu'il perfectionne. C'est uniquement communiquer sa bonté. Communiquer sa perfection, autrement dit sa bonté. De son côté, chaque créature entend obtenir sa propre perfection, qui est une ressemblance de la perfection et de la bonté divine. Ainsi donc, c'est la bonté divine, c'est la divine bonté qui est la fin de toute chose. Vous voyez, c'est intéressant à préciser ça. Donc, quand j'essaie de comprendre que Dieu est co-efficient de toute réalité, je regarde l'ipsum esse subsistens. Quand je regarde que Dieu est cause finale de toute chose, je regarde sa bonté. Voilà les deux pôles du Créateur. Vous voyez le double mouvement de tout le néoplatonisme, mais analysé ici. Le point de vue processus, regressus, le retour. Ce qui provient de la création, l'émanation. Puis le retour. Le double mouvement. Émaner, retourner. L'émanation provient de la cause efficiente. Dieu est cause efficiente de toutes les réalités, c'est-à-dire que l'ipsum esse subsistens donne l'esse participer. Et le point de vue de Dieu comme causalité finale, c'est sa bonté qui attire tout. Dieu attire tout. Parce que en tant que cause efficiente, il attire tout. En tant que cause finale, je dirais, il attire tout. Il attire toutes les réalités vers lui. Vous avez deux, et c'est les deux extrêmes de la question. Cause efficiente, cause finale. C'est les deux extrêmes. L'être au bien. Vous passez de l'être à la bonté. Dieu est l'être premier, l'ipsum esse subsistens. Dieu est la bonté subsistante, la bonté pure. Il est bon, Dieu seul est bon. Et parce que Dieu seul est bon, il est cause finale de tout. C'est le retour vers lui. Vous voyez bien ça. Et toute la question est là-dessus. Hein. Toute la question, c'est le point de vue de l'être participé et le point de vue du retour vers Dieu. C'est en ce sens-là, vous voyez, que quelqu'un comme le Père Chenu dira, vous voyez bien que le schéma néoplatonicien est là présent. L'émanation, le retour. Donc vous voyez bien que saint Thomas est en dépendance totale du néoplatonisme. C'est vrai, vous retrouvez ça, c'est entre deux, vous voyez, deux petites questions, le point de vue de la matière et le point de vue de la cause exemplaire. Ça, c'est des questions annexes. Hein. Les deux grands articles, c'est l'article premier et l'article dernier. C'est évident que c'est les deux grands articles. Alors, au fond, l'émanation et le retour. C'est très vrai, qu'il y a cela. Et tout le grand chêne de la somme, c'est émanation et retour. Donc, vous retrouvez le chêne néoplatonicien. Très vrai, ce chef néoplatonicien est très vrai au point de vue du jugement de sagesse. La seule différence, c'est que vous analysez et vous précisez cause efficiente, cause finale. Les néoplatoniciens diront l'une et la bonté. Saint Thomas dira l'ipsum esse subsistens. Là, c'est plus néoplatonicien. Parce que l'ipsum esse subsistens montre la racine et le fondement de l'un. Mais la bonté reste la même. Alors le néoplatonisme et l'aristotélisme s'unissent dans la bonté et s'opposent dans l'un et l'ipsum esse subsistens. Vous voyez ? Et alors, si je prends l'être et le bien, je peux analyser cause efficiente, tandis que si j'ai l'un, je n'ai pas la cause efficiente. Du point de l'être, j'ai laissé participer le retour vers Dieu, le point de vue de la bonté. Bon, je Je crois que ça, on peut tous saisir ça. Toute la question, l'ordre de cette question très importante, saisir comment je peux attribuer à Dieu la causalité. C'est capital, ça. Nous y reviendrons, comment je peux attribuer à Dieu la causalité. Mais c'est bien, c'est nettement causalité efficiente, causalité finale, hein, les deux. D'autre part, je vois que je proviens, toute l'argumentation de cet article, hein, toute l'argumentation de cet article repose sur l'unité de l'agent et du patient. Or, l'agent cause efficient, c'est du reste ce qui a commencé l'article, le corps de l'article commence de cette manière-là, tout agent agit en vue d'une fin. Donc c'est la cause efficiente qui me conduit à la finalité. Vous voyez l'ordre, hein, de la causalité efficiente vers la finalité. C'est la cause efficiente qui me permet le raisonnement de la finalité. Je m'appuie sur la causalité efficiente pour découvrir le point de vue de la finalité. Donc, cet article 4 repose sur l'article 1. Ça, c'est très net. Or, dans l'article 1, je vois la distance entre main, ipsum et ses subsistances. Donc, l'argumentation que j'ai n'est pas du tout néoplatonicienne. Je ne repose pas sur l'un pour le bien. Je repose sur l'ipsum esse pour la causalité efficiente, et en m'appuyant sur la causalité efficiente, je vois le point de vue de la bonté. Pourquoi ? Parce que l'agent et le patient ont la même fin. Donc, c'est par le point de vue de la causalité efficiente que je découvre la finalité. Tout agent comme tel agit à cause d'une fin. Tout agent comme tel agit à cause d'une fin, et la fin de l'agent et la fin du patient sont la même, ou du quotidien. C'est donc la causalité efficiente de l'article premier que je retrouve, qui me permet de comprendre le point de vue de la finalité et qui assume le point de vue de la finalité de la créature. La créature, elle est ici. C'est une créature. Alors vous voyez ce qui est très extraordinaire dans cet article, hein, l'analogie que ça fait. Je prends le couple agent et patient et je le transpose en Dieu, créateur et créature. Ça, il faut saisir. Hein. Il faut saisir, c'est monstrueux. C'est monstrueux pour quelqu'un qui n'a aucun sens de l'analogie. Il faut saisir le scandale, hein, parce que ça permet de mieux répondre. Il faut saisir le scandale que nous donne Saint-Thomas ici, au point de vue intellectuel. J'espère que vous saisissez le scandale de la chose. J'ai agent, patient, au niveau philosophique, et je transpose créateur, créature. L'agent et le patient sont unis dans la finalité, créateur et créature sont unis dans la finalité. C'est toute l'argumentation de saint Thomas. Vous voyez que c'est quand même quelque chose de prodigieux, hein, comme analogie. Je passe de l'agent au créateur, je passe du patient à la créature. Et pourquoi je peux faire ça? C'est parce que dans l'article premier, j'ai montré que Dieu est cause efficiente de toute la vie. Donc il est l'agent premier. Donc cet article repose entièrement sur l'article premier. Saisissez bien cette argumentation. Elle est très belle, hein, mais elle est très, très, très verticale. Hein, très verticale. Parce que c'est le parallélisme agent-patient, créateur et créature, c'est quand même quelque chose. Hein. Vous voyez ce que ça fait? Eh bien, ceci ne peut se faire que grâce à l'article premier. Donc, toute la question repose sur l'article premier. Et en ce sens-là, c'est aristotélicien comme argumentation et non pas platonicien. Parce que ça repose sur l'ipsum esse subsistans, donc sur l'essai. Ceci pour répondre, parce que c'est des questions qu'on retrouve tout le temps. Alors c'est important d'essayer d'y comprendre. Alors, avant terminer, voyons les objections, la manière dont Saint Thomas répond aux objections. Première objection, on redoute la réponse. On redoute que le premier agent, s'il se propose une fin, ne prouve son indigence. Mais agir par indigence n'est le cas que d'un agent imparfait, qui peut à la fois agir et souffrir une action. Quod natum est adgere et pati. Là, le latin est très fort. Hein, qui peut à la fois, qui est capable, natum est. Natum est, c'est intraduisible, c'est ce qui est capable à la fois d'agir et de pâtir. Or, cela ne convient pas à Dieu. Ainsi, Dieu seul est-il absolument libéral. Voyez, le père du libéralisme, hein, est idéo, quod solus est maxime liberalis. Le maximé libéraliste, Dieu est maximé libéraliste, agissant non pour son utilité, mais pour sa bonté. Avec le renversement complet de l'argument de l'objection. L'objection dit, affirmer que en Dieu une cause finale, c'est montrer la limite de Dieu. Donc Dieu n'a pas de limite, il ne peut pas avoir de fin, parce que la fin est toujours extrinsèque. Ça ne veut pas du tout. Dire que Dieu a une cause finale, c'est montrer maxime libéralis. Il agit d'une façon... Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas avoir justement quelque chose qui vient s'ajouter. Vous voyez, si vous transposez ce que je vous avais dit tout à l'heure à propos de l'être, vous pouvez dire que l'acte maxime libéralis, dans le sens très très fort, c'est découvrir la fin de l'être, c'est comprendre la surabondance de l'être, maxime libéralis. Découvrir que Dieu est fin, c'est découvrir maxime libéralis de Dieu. C'est très beau ça. C'est pas du tout de comprendre au contraire la limite. Alors, voyons la seconde objection. D'autre part, Aristote relève que la fin de la production d'un être, sa forme d'existence et l'agent qui le produit ne peuvent pas être identiques, car la fin de la production, ce n'est pas l'agent. C'est la forme de ce qu'il produit. Or, Dieu est l'agent de toute chose. On ne peut donc pas dire qu'il en soit la cause finale. Encore la même chose. Hein. C'est parce que vous concevez la cause finale limitée, la cause efficiente limitée. On dit, Dieu qui est agent ne peut pas être en même temps cause finale, parce que la fin d'une action, ce n'est pas l'agent, mais la forme de l'effet. Ça, c'est très bien résumé. Là, c'est très... Voilà l'objection. Sans doute, mais la forme de l'effet n'est pas une fin pour l'action. Mais la forme de l'effet n'est une fin pour l'action qu'en raison de sa ressemblance avec l'agent qui entend imprimer sa marque dans son œuvre. Sans cela, cette forme de l'être engendré serait supérieure à celui qui engendre, vu que la fin prévaut sur les moyens qui la servent. Ça, c'est un peu plus délicat. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est plus délicat. Hein. Sans doute, mais la forme de l'effet met une fin pour l'action qu'en raison de sa ressemblance avec l'agent. Donc quand je communique une forme, tout agent agit semblablement à lui-même. Si tout agent agit semblablement à lui-même, il tend à imprimer quelque chose dans le patient. Et alors, ce qu'il imprime dans le patient, la forme qu'il imprime, peut devenir fin dans la mesure même où où ce qui est communiqué implique une ressemblance avec l'agent qui entend imprimer sa marque dans son œuvre. Alors, si la forme communiquée, c'est la ressemblance avec l'agent, alors à ce moment-là, je comprends que l'agent peut devenir fin. Puisque la forme communiquée, c'est la ressemblance avec l'agent. Donc, je retrouve dans l'agent la finalité. Sans cela, cette forme de l'être engendré serait supérieure à celui qui l'engendre, vu que la fin prévaut sur les moyens qui la servent. Prenez un exemple. Hein. Dans un enseignement, parce que enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment, entre un disciple et un maître, celui qui enseigne, l'enseignant, et celui qui est enseigné, le disciple, qu'est-ce qu'il y a comme commune finalité? Quelle est la finalité commune? Communication de la vérité. S'il n'y a plus recherche de vérité, il ne peut pas y avoir identité entre le maître et le disciple. L'identité est uniquement dans la recherche de la vérité qui est recherchée. Quand il n'y a plus recherche de vérité, il y a opposition et rivalité entre le maître et le disciple. Ça ne peut pas être autrement, parce que dans deux situations différentes. Hein. Il y a deux situations totalement différentes. Et plus le maître est maître, plus le disciple est patient. Et plus les examens sont importants, plus le maître rattrape les gens à les examens. Et donc il les rattrape à ce moment-là. Et plus l'opposition se fait sentir et la rivalité se fait sentir. Si au contraire, identité entre les deux dans la recherche de la vérité, alors à ce moment-là, il y a l'unité. Qu'est-ce que le maître cherche à souligner en tant qu'il est maître? Communiquer la vérité. Communiquer la vérité qu'il possède un peu plus que celui qui est enseigné, normalement. S'il ne la possède pas plus, c'est gênant. Hein, il la possède un peu plus, normalement. Donc, alors, il doit communiquer la vérité. Et le disciple reçoit cette communication. Et alors, à ce moment-là, la finalité du disciple, ou la finalité du maître, c'est bien la forme qu'il communique, le point de vue de la vérité. Et la finalité du disciple, c'est bien de recevoir le point de vue de la vérité. La forme qui lui permettra, la forme qui vient imprimer son intelligence et qui lui permet justement de rejoindre le point de vue de la pensée du maître. Mais ce n'est pas la pensée du maître qui fait l'unité. Un disciple qui serait uniquement une béance par rapport au maître, ça m'est bien égal ce qu'il enseigne, ce que je veux recevoir, c'est ce qu'il dit. La vérité, ça m'est égal, mais c'est ce qu'il dit. Donc il serait purement béance. Alors à ce moment-là, l'opposition demeure toujours. C'est la vérité qui fait l'unité. C'est très important de savoir ça. Vous voyez, il y a deux manières de suivre un cours. Hein. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux. Hein. Et puisqu'il y a une quatrième manière, hein, qui est de dormir. C'est la quatrième manière. Ou de s'ennuyer. C'est encore une autre manière. Alors à ce moment-là, il n'y a pas d'identité. Idem et tunum, entre le maître et le disciple, n'est pas le même du tout. L'un ne s'ennuie pas et l'autre s'ennuie. Ça peut arriver, ça. Normalement, un maître qui s'ennuie, c'est très ennuyeux, vous voyez. C'est très ennuyeux, parce qu'il, c'est ce que disait le père Dubard quand il a commencé à enseigner. J'en ai bavé, ils en baveront. Alors à ce moment-là, vous ne communiquez pas la vérité. Hein. J'en ai bavé, ils en baveront, alors vous devenez à ce moment-là cause d'ennui, mais volontairement. Ça ne peut pas être la mitaine. À ce moment-là, l'opposition se fait de plus en plus grande. Tandis que s'il y a recherche de la vérité commune, l'unité se fait. Dans la recherche de la vérité. Le maître cherche à communiquer la vérité et le disciple cherche à recevoir la vérité. Tandis que si vous comprenez uniquement, je reçois ce que le maître me communique, la forme, communiquée par le maîtrise, sans regarder le point de vue de la forme. Alors à ce moment-là, je reçois la forme du maître, mais il n'y a pas d'unité, parce que la forme chez le maître est possédée selon une autre manière que chez le disciple. Il n'y aura jamais d'unité. Le disciple courra toujours après. Tandis que s'il recherche la vérité, à un moment donné, le disciple a sa liberté. Il n'est pas dépendant. Il se libère à mesure même qu'il est plus disciple. Plus il est disciple, plus il se libère. Enfin, de l'autre manière, plus il est disciple, moins il se libère. Parce que la finalité n'est pas la recherche de la vérité, la communication de la forme. Et au fond, c'est ça que ça demande de notre ici. Alors, vous avez transposé par rapport à Dieu, vous comprenez très bien. Créateur et créature. Comment Dieu peut-il être ma fin ? Comment peut-il être, bon, si je comprends la communication dans l'ordre de la bonté. Autrement, je dirais, je considère que la créature, elle est patiente, plus elle est créature, plus elle est patiente, plus elle est donc, plus elle doit l'abîme entre les deux. Il y a un abîme de plus en plus qui se creuse. Tandis qu'au contraire, si je comprends que l'agent et le patient ont la même finalité, alors le créateur et la créature peuvent avoir la même finalité. Et c'est la volonté de Dieu. Alors voyons l'article, l'objection troisième. En outre, tout être désire sa fin. Or, tout être ne désire pas Dieu, puisque beaucoup ne le connaissent même point. Alors, réponse de saint Thomas, Dieu n'est pas fin suprême, assure-t-on encore, puisque tout être ne le désire point. Mais à la vérité, tout être, en désirant un bien quelconque, que ce soit d'un désir intelligent, sensitif ou naturel, et dépourvu de connaissances, désire Dieu comme sa fin. Ça, c'est capital de comprendre ça. Car rien n'a un caractère de bien et de désirable que selon qu'il participe à la divine ressemblance. Selon qu'il participe à la similitude de Dieu. Rien n'a la raison de bien et d'appétit, si ce n'est selon qu'il participe à la similitude de Dieu. Donc, tout être qui désire un bien, désire Dieu. Et c'est là l'avantage du désir par rapport à la connaissance. Je ne peux pas dire que tout être qui connaît un être, un autre, connaît Dieu. Mais je peux dire que tout être qui désire un bien, désire Dieu. Là, le caractère beaucoup plus immédiat de l'appétit par rapport à la créature, par rapport au créateur. Ils touchent la même finalité. Ils sont un dans la finalité, tandis qu'ils ne sont pas un dans la forme, au point de vue de la connaissance. Vous voyez, alors là, vous voyez tout de suite l'erreur de l'ontologie, c'est la confusion entre l'ordre de la connaissance et l'ordre de l'appétit. Si vous confondez l'ordre de l'appétit et l'ordre de la connaissance, ou vous tombez dans l'ontologisme, ou vous tombez dans l'agnosticisme. Impossible de connaître Dieu. Alors, dernière objection. Au surplus, la cause finale n'occupe-t-elle pas le premier rang entre les causes ? Si donc Dieu est à la fois cause agente et cause finale, il s'ensuit qu'il y a en lui quelque chose de premier et quelque chose de second. Ce qui est impossible. Alors ça, c'est une très belle objection dans sa grosse œuvre. Hein. Alors, c'est intéressant de voir. Oui, les grosses objections, on les comprend tout de suite. Hein. Les objections subtiles, c'est différent. Mais les grosses objections, c'est un coup de poing. Hein. Ça va très bien. Alors, réponse. En effet, on craint d'introduire en Dieu une multiplicité et un ordre d'éléments. Mais de ce que Dieu est à la fois cause efficiente, exemplaire et finale de toute chose, et de ce que la matière première elle-même est de lui, il suit que le premier principe de toute chose est un réellement, un objectivement, Toutefois, rien n'empêche d'envisager en lui des choses rationnellement diverses. Vous voyez, on ne dit pas des choses, hein, parce que ça ne va plus. Il ne faut pas dire des choses. Ça, c'est une mauvaise traduction. Super sortilège. Pas étonnant. Métaphysique, c'est toujours un peu gros. Alors, c'est un rhéteur, le père Sertilange. Hein. C'est un rhéteur. Alors, on dit choses, mais voyez, si je mets choses, c'est res. Je ne peux pas envisager en Dieu plusieurs choses, mais je peux envisager différents aspects. Alors, c'est pour ça que la traduction est mauvaise. Tandis que, regardez le latin, non enim prohibet ineo, considerari multa secundum rationem. Les multa secundum rationem, c'est juste l'inverse des réalités. C'est multa secundum rationem, ce sont les raisons que je considère en Dieu qui sont diverses comme raisons, mais qui sont la même réalité. C'est la même réalité que je regarde sous des aspects différents. C'est ça qu'il faut dire. Hein. Alors il faut donc corriger. Toutefois, rien n'empêche d'envisager en lui des choses rationnellement diverses. Alors, disons, rien n'empêche de considérer en lui, de considérer dans cette même réalité diverses raisons, diverses connaissances. Et parmi ces diverses choses, ces diverses raisons, certaines tombent avant d'autres dans notre esprit. Quorum quidam prius cadit in intellectu nostro quam alia. Dans ces rationes que j'envisage vis-à-vis de Dieu, il y a un ordre. Je peux considérer donc telle rationes vis-à-vis de telle autre. Alors, vous voyez, c'est très intéressant, ça. C'est très intéressant parce que Saint Thomas lui montre, quand je dis que en Dieu, il y a la cause efficiente, quand je dis en Dieu la cause efficiente, la cause finale. Quand je dis en Dieu, il y a la cause exemplaire. Je ne divise pas la réalité divine. C'est la même réalité qui joue la fonction de cause efficiente, de cause finale, de cause formelle, de cause exemplaire. C'est la même réalité regardée selon des raisons différentes. Ce sont des rationnels. Et non pas des res. C'est pour ça que si vous dites chose, vous n'êtes pas du tout conduit au rationnel. Vous regardez res. Vous ne pouvez pas dire res. Ce sont des rationnels que j'attribue à Dieu, en disant que Dieu est cause efficiente, que Dieu est cause finale. Et c'est l'analyse théologique. Et l'analyse théologique est au niveau des rationnels. Et pas au niveau des res. Très intéressant pour comprendre ce que c'est que la théologie scientifique, vous voyez. Je ne divise pas Dieu. Dieu reste un, mais je suis obligé, quand il s'agit de Dieu, puisque la foi ne change pas ma manière de connaître, j'ai une manière de connaître qui implique une analyse. Autrement, je tombe dans la confusion. Celui qui ne veut jamais analyser demeure dans la confusion. Il faut analyser pour supprimer la confusion. Alors, si j'analyse, je vois les rationnesses différentes, et en voyant les rationnesses différentes, je vois immédiatement qu'en Dieu, il y a une réalité existante, Dieu, mais j'atteins cette réalité unique selon des rationnesses diverses. C'est rationnesses secundum rationem, secundum intellectum. C'est des raisons différentes qui sont attribuées à Dieu, qui existent en Dieu. Oui, alors ça résume très bien cette fin, c'est pas cet ad quartum est très intéressant pour donner la synthèse de cette question et de comprendre exactement la perspective de cette question. Il faut aller jusque là. Et c'est là où saint Thomas montre que l'analyse qu'il fait, c'est une analyse des rationes. Alors, une fois qu'on a ça, on peut revenir maintenant pour mieux saisir l'unité de cette question et la signification profonde de cette question. Qu'est-ce que le théologien cherche à trouver, cherche à découvrir? Il essaie de découvrir le problème de la création. Pour saisir le problème de la création, c'est-à-dire de l'émanation de toute chose à partir de Dieu, tout fut par lui. Comprendre cette affirmation, tout fut par lui. Enfin, tout fut par lui. Comment comprendre cela? Est-ce que j'ai le droit, au point de vue théologique, de dire Dieu est cause? Ou est-ce que je n'ai pas le droit de le dire? Si j'ai le droit de dire que Dieu est cause, j'introduis dans ma recherche, dans mon analyse théologique, j'introduis une ratio philosophique qui n'est pas révélée. La causalité ne fait pas partie de la révélation. Et tout est là. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Et voyez que tout ce que saint Thomas va dire sur le problème de la création, sur le mystère de la création, repose là-dessus. Est-ce que je peux introduire dans le mystère même de Dieu la causalité? Qu'est-ce que, alors, pour bien répondre, qu'est-ce que je fais intellectuellement quand j'introduis la causalité en Dieu et que je dis Dieu est vraiment cause efficiente? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je saisis philosophiquement ce que c'est que la raison de cause. Et je saisis ce que c'est que la raison de cause, ayant saisi la causalité. Ayant saisi telle ou telle cause. Je saisis la raison de cause. Et je vois que la raison de cause n'implique aucune imperfection. Si la raison de cause n'implique aucune imperfection, comme raison de cause, je peux l'attribuer à Dieu. La raison de cause exprime tout simplement d'être premier, sans aucune imperfection. Mais comme cette raison de cause a des modalités différentes, je dois successivement dire, la raison de cause efficiente est-elle en Dieu? Oui, c'est très important, parce que quand j'ai dit cause efficiente, je risque d'oublier que c'est une ratio est. Est-ce que la raison de cause efficiente est-elle en Dieu? Est-ce que la raison de cause exemplaire est en Dieu? Est-ce que la raison de cause finale est en Dieu? Est-ce que la raison de la cause matérielle est en Dieu? Donc vous voyez la manière dont se pose la question. Pour cela, il faut concevoir que la cause est principe. Si je ne conçois pas que cause est principe, je ne peux pas l'attribuer à Dieu. Donc, dès que je suis au niveau d'une philosophie à la manière de Descartes, à la manière de Kant, je ne peux plus. Qu'est-ce que c'est que la causalité chez Kant? La causalité chez Kant n'implique pas le point de vue d'être au-delà de toute imperfection. Puisque la causalité chez Kant reste au niveau du devenir. Il faut donc avoir saisi que la causalité peut être au niveau de l'être pour pouvoir l'appliquer à Dieu. Si je n'ai pas saisi que la causalité peut être au niveau de l'être, je ne peux pas l'attribuer à Dieu. Et c'est justement ce qui se passe pour Kant. La causalité est au niveau du devenir. Et la causalité exprime uniquement une relation de antécédent et conséquent. Si ça implique une relation d'antécédent et conséquent, toute causalité implique un ordre. Si toute causalité implique un ordre, je ne peux pas l'appliquer à Dieu.